Cours de philosophie éthique par le Père Philippe à Saint-Joseph le 11 février 1987.
On a plus vite des précisions d'artiste. résiste à des déterminations qui se fait sentir très très vite. C'est pour ça qu'un artiste est toujours un peu tranchant, alors que l'homme prudent ne l'est pas. L'homme prudent, il sait très bien qu'il ne faut pas affirmer trop vite. Vous voyez, les jeunes tranchent très vite. C'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, ouais, attention, hein. Ça c'est d'ordre artistique, c'est pas d'ordre prudentiel. Et le contemplatif, alors c'est autre chose. Il se met au-delà du combat, donc il n'a pas à trancher, il continue son chemin. Il laisse les gens se battre, il est au-dessus. C'est très glorieux, les trois doivent se tenir. Je crois que, au point de vue personnalité, comprenez bien, point de vue personnalité psychologique, il y a là trois qu'on doit tout le temps regarder très attentivement. Je dis bien point de vue personnalité psychologique. On le verra du côté de la personne, mais je le signale ici. La personnalité de l'homme prudent, la personnalité de l'homme artiste, la personnalité du contemplatif. Ce sont trois types de personnalités très, très différentes. Et au point de vue de la personnalité, l'artiste et le prudent sont presque toujours à l'opposé. C'est très curieux. Vous voyez, dans un dialogue de table ronde, on mettrait le prudent, l'artiste et le contemplatif vis-à-vis de leur manière de regarder les choses. C'est très important de saisir ça. Vous voyez, ça, c'est tout le contexte un tout petit peu autour qu'il faut voir, qu'il faut sentir. Alors, je précise maintenant la naissance de cette vertu de prudence qui est nécessaire à cause de l'imaginaire qui risque tout le temps de s'accoquiner avec la passion. Il y a des alliances de la passion et de l'imaginaire qui sont extraordinaires à tous les âges et qui font que le jugement moral dérive. On part dans le fossé. Alors, je vous disais, par rapport à l'imperium, qui est un jugement moral très important, et ce jugement moral de l'imperium, qui est un acte d'intelligence, ce jugement moral de l'imperium, qui fait ceci. Donc, tous les matins, vous faites un petit acte d'imperium, essayez de le faire consciemment. Je me lève. Et je me lève à l'heure. Tandis que quand votre imperium est encore dans les nuages de l'imaginaire, oh, on peut encore gagner 5 minutes. Vous voyez, la paresse, c'est de l'ordre du concupiscible. Le paresseux aime son oreiller. C'est très curieux. Il le quitte très difficilement. Il l'emporte très bien au cœur. Parce que ça colle. Alors que l'imperium vient dire non, terminé. On passe d'un domaine à l'autre. Voyez, c'est net. C'est pour ça que c'est un acte d'intelligence. C'est un acte qui coupe deux attitudes. C'est très bien, on a dormi. Maintenant, ça y est. Même si on n'a pas dormi beaucoup, ça n'a pas d'importance. Même si on est fatigué, ça n'a pas d'importance. Je dois faire ça. L'impérium. Je dois faire ça. Oui, je dois faire ça. Alors, cet impérium présuppose le choix, présuppose l'intention, présuppose un amour. Pour que l'impérium soit très impératif et très tranchant, il faut que l'amour soit là, très actuel. Donc, c'est un acte d'intelligence enveloppé d'amour. C'est ça l'impérium. Hein. C'est pour ça que je peux dire que l'impérium est un acte volontaire ou un acte d'intelligence. Vous savez bien, les deux spiritualités, Thomas d'Aquin et Suarez. Pour Suarez, l'impérium est un acte volontaire. C'est très important, du reste, de bien comprendre ça. Et pour saint Thomas, l'acte d'impérium est un acte d'intelligence, mais un acte d'intelligence à l'intérieur de l'amour, à l'intérieur de la volonté. C'est dans l'impérium que je saisis le mieux le lien, la coopération entre intelligence et volonté. C'est très beau un acte d'impérium. C'est très beau parce que ça montre ce qu'est la personne au point de vue moral. C'est dans la manière dont vous commandez à vous-même qu'on dénote tout de suite si vous avez assez de fermeté, assez de netteté par rapport à la passion, à l'imaginaire. C'est ça qu'on doit cultiver, hein, pour acquérir quelque chose de net. Parce que si l'impérium est gluant, si l'impérium est, voyez, lié encore à toute la passion, à tout l'imaginaire, alors il n'est pas net. Et il y a quelque chose qui manque. Alors ça devient agaçant, vous savez. On ne peut jamais savoir si c'est oui ou non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ça, c'est ça que Jésus réclame, hein, que ce soit net. Tandis qu'autrement, est-ce que demain matin vous serez là? Peut-être, ça dépendra, ça dépendra. Il y a du brouillard, non? Mais vous ne pouvez pas compter. Et en effet, il vous a dit oui, et puis le lendemain matin, il n'est pas là, parce qu'il y a du brouillard. Il n'y a pas quelque chose de net. Mais l'intelligence dépasse le temps. L'intelligence dépasse les brouillards de l'imaginaire et des passions. Donc, le premier moment où la prudence vient conforter l'intelligence pratique. L'intelligence pratique qui est une intelligence qui naît à l'intérieur de l'amour. Cette naissance de la prudence, de cet habitus, c'est un habitus qu'on acquiert, la prudence. C'est un pli qui s'enracine dans mon intelligence pratique. C'est par rapport à l'impérium. J'ai besoin de cet habitus, de cette détermination qui vient s'ajouter à la nature pour que l'imaginaire et les passions ne l'emportent pas. Et tous nous avons besoin de ça. Naturellement. Je dis naturellement, étant donné notre état où l'imaginaire et les passions sont si fortes la plupart du temps, comme dit Aristote et saint Thomas, audit pluribus, la plupart du temps, nous restons dans l'imaginaire et le passionnel. Et il faut une force intérieure de conquête par rapport à soi-même, pour arriver à faire que mon intelligence pratique, grâce à la prudence, soit victorieuse de cet imaginaire et de ses passions. C'est très beau la victoire de l'intelligence pratique, sois-tu là. Et c'est important de saisir ça, il faut le saisir et puis l'acquérir. Il faut le comprendre et l'acquérir en faisant un petit examen de conscience philosophique et en voyant qu'en effet, oui, c'est vrai, je reconnais bien que je reste un tout petit peu dans une attitude que j'aime pas trop préciser. Alors que il faut que dans ce domaine-là, ce soit net. C'est ce jugement droit qui consiste à dire je dois faire cela, c'est décidé, je dois le faire, peu importe les circonstances dans lesquelles je me trouve, je dois le faire. Alors évidemment la prudence consiste à être attentif aux circonstances. J'ai décidé de le faire, mais il est possible, voyez bien. C'est là où la prudence reste souple. Parce qu'il y a deux attitudes prudentielles. J'ai décidé, hier, avant de me coucher, de me lever à l'heure voulue. 6 heures. J'ai décidé ça. Mais entre deux, durant la nuit, j'ai eu un grand accès de fièvre. Je dis pas un cauchemar, mais un grand accès de fièvre. Parce que le cauchemar, peu importe, hein, si chaque fois que vous avez eu un cauchemar, vous ne vous levez pas le matin, ou vous avez eu un rêve extraordinaire, vous ne vous levez pas le matin, mais un grand accès de fièvre, c'est la grippe. Alors, l'homme prudent qui est en vous, étant donné cette circonstance, je crois qu'il vaut mieux pas. Et vous êtes très responsable. Mais il y a une circonstance qui était imprévue. Si l'artiste en vous domine, et le petit stoïcien, ah, je promis de me lever. J'ai dit au Père Maître que je ferai attention cette semaine-ci. Je serai tout le temps à l'oraison, 5 minutes avant les autres. Pour bien montrer ma décision. Alors, coûte que coûte, crève. Ça n'a pas d'importance. Je serai là. Et le petit stoïcien, c'est bien souvent la prudence est là. Là, je veux être là pour montrer que j'ai de la volonté. Pour montrer que je suis aussi capable qu'un autre d'être là. Et le petit stoïcien qui pousse. Alors, pour montrer, pour la manifestation, c'est pas de l'ordre prudentiel, ça. C'est le petit artiste. C'est pas entièrement prudent. Mais faisons attention, parce que la fièvre quarte, la nuit ça monte très vite. Est-ce que c'est bien sûr que j'ai la fièvre? Est-ce que c'est pas mon imaginaire? Vous voyez le petit dilemme? Alors si je sais que je suis porté assez facilement à imaginer pour continuer de dormir. Je lutterai, je dirai, non, il vaut mieux quand même y aller. Puis on verra après. Après tout, c'est pas sûr du tout. Il faut y aller. Et tout petit dilemme, la réflexion entre le petit artiste et l'homme prudent qui commence à naître. C'est pas si facile que ça d'être vraiment prudent dans l'imperium. Oui, les psychologues diraient les motivations. La motivation de l'homme prudent, c'est d'être fidèle à la promesse d'amour. La motivation de l'artiste, il faut être là pour qu'on comprenne que j'ai de la volonté, pour qu'on comprenne que je suis fidèle. Il faut être là. Ça, c'est la motivation de l'artiste. Il y a plus du côté de la manifestation. Je ne veux pas qu'on dise une fois de plus que je suis lâche, que je suis paresseux. Je veux montrer que je suis capable aussi bien qu'un autre. Motivation. C'est très vrai, les motivations sont où? D'ordre du fatuéré ou de l'ordre de la tuéré. Et c'est dans l'imperium que va se faire cette lutte entre les deux. Le prudent sait que c'est par fidélité à sa promesse qu'il veut accomplir cet acte. Il veut le faire. Il est lucide. La prudence est lucide. On a un jugement très lucide. Alors c'est là où je joue très profondément. ça, vous voyez, d'être prudent. Vous êtes très intelligent pour être prudent. C'est l'intelligence pratique et la lucidité vis-à-vis de son capital propre, intérieur, jusqu'où je peux aller. Et j'exploite toutes mes forces en vue d'un plus grand amour. Et c'est toujours en vue d'un plus grand amour. Ça, c'est l'homme prudent. En vue de la manifestation. En vue d'être bien jugé. C'est très souvent des motifs qui sont moins purs, qui peuvent provenir de la vanité, qui peuvent provenir du petit artiste qui est en moi. C'est pas toujours de l'artiste, c'est quelquefois de la vanité, c'est pas la même chose du tout. L'artiste n'est pas vaniteux. La vanité, elle est commune chez l'artiste et chez l'homme prudent. Et quand vous vous levez uniquement pour qu'on vous voie, on verra que je suis là présent. C'est de la vanité. Vous levez pour ça, ça n'en vaut pas la peine. Et quelquefois, la vanité nous aide. Et l'homme prudent sait qu'il y a en nous le vaniteux. Et on doit s'en servir. On doit le dépasser, on doit s'en servir. Mais ce que je vous disais l'autre jour, celui qui disait « Ah, moi, ça ne me dérange pas d'être dernier, parce que les autres, ça leur fait de la peine. Moi, ça ne me dérange pas d'être dernier de classe. Ça ne me dérange pas, ça ne me fait pas de peine. Ça ne me fait pas de peine. » Alors ça, c'est un manque de vanité. Quand même un peu de dignité. Alors on se sert de ça, mais il faut se servir de ses passions. C'est évident qu'il faut s'en servir. Il faut... L'homme prudent connaît ses passions et s'en sert pour aimer plus. Donc il ne faut pas dire que c'est toujours un motif mauvais, pas du tout. Quand même, hein, qu'on ne vous traite pas comme le dernier de tous. C'est très complexe, la prudence, et c'est différent pour chacun d'entre nous. Mais ça joue à ce niveau. Fais ceci. Donc je prends l'éveil du matin, le réveil du matin, parce que ça, c'est ça existe tous les jours, mais ça existerait pour le travail intellectuel et le travail manuel. Les épluchages. Je suis jamais là aux épluchages. Je ferais quand même bien un petit effort d'être là. C'est pas mauvais d'y être. C'est pas parce que je suis un intellectuel que je dois pas y être, au contraire. L'intellectuel doit se montrer plus capable que les autres dans le travail manuel. Parce qu'il doit toujours un peu se faire pardonner. Alors, il le fera au point de vue de la prudence. Il faut que de temps en temps je sois là. J'ai pas le droit d'y être. Moi, j'y suis pas parce que je suis réservé pour les choses intellectuelles. Donc, il dira, il faut que j'y sois de temps en temps. Mais l'impérium, l'impérium qui jugera dans le règlement que vous avez de votre journée. Donc, la prudence va permettre à l'impérium fait ceci. D'être plus net, plus précis, plus au service de ma finalité. C'est grâce à la prudence que tous mes actes que je fais durant la journée sont plus nets. La cloche sonne, je veux obéir. Ah, l'impérium par rapport à l'obéissance. Parce que très souvent, on manque à l'obéissance. Parce qu'on n'est pas très net dans l'ordre de l'impérium. Alors qu'on sait qu'il faut obéir, que c'est le grand impérium de ma journée, il faut obéir. Et la prudence me rappelle que l'acte d'obéissance, ça peut être héroïque. Je suis un intellectuel, j'aime bien la recherche de la vérité. Bizarrement, cette cloche qui vient ponctuer comme ça toute la journée, c'est assez simple. Alors, je ne veux plus l'écouter. Alors que l'homme prudent dit pas du tout, tu dois l'écouter. Tu dois obéir. C'est plus important d'obéir. Si tu es religieux, c'est plus important d'obéir que de continuer d'une manière personnelle. Exemples qu'on peut mettre d'ordre impérium, c'est très très important l'impérium. Mais c'est l'émergence de notre intelligence et donc de notre personnalité morale au service de notre amour, au-delà des passions, de l'ambition. L'ambition, c'est une passion. Au-delà de notre amour. Voir si tous les écrous sont bien visés. Ça peut se faire très vite, mais c'est bien. Est-ce que mon règlement de vie est ce qu'il doit être? Est-ce que les choix que j'ai faits, le temps de l'oraison, le temps donné à la charité fraternelle par les épluchages, le temps donné à la prière, le temps donné à l'étude, est-ce que c'est bien? Faut pas dire c'est fait une fois pour toutes. Non, ça, ce serait trop artiste. L'homme prudent sait que ça change. Ça change. Si je suis fatigué, si je suis en pleine forme, si c'est le carême, si c'est pas le carême, ça change. Un règlement de vie se modifie avec le carême. Avec l'avant, avec le temps de Noël, avec le temps. personnel. Et ainsi de suite, vous voyez. Le choix, nous l'avons vu. L'élection, pas seulement la retraite, mais l'élection. C'est pour ça que quand j'ai un petit jour de désert, je dois, dans ma journée de désert, regarder si mon règlement de vie est bien ce qu'il doit être. Nous l'avons vu que, à cause de la passion, à cause de l'imaginaire, très facilement, nos choix sont obnubilés. Il y a des choix qu'on fait de façon purement passionnelle. J'ai dit, oui, j'aimerais avoir une journée de désert. J'aimerais travailler. En réalité, c'est pas du tout à cause du travail et à cause de l'adoration. C'est pour retrouver tel frère que j'aime bien. C'est très subtil. J'aime beaucoup de le retrouver. J'ai un amour passionnel pour lui. Ça existe. Et donc j'aime de le retrouver. J'aime d'être avec lui. Est-ce que c'est pour aimer plus Dieu? Ou si c'est le petit chat qui aime d'être auprès d'un feu brûlant? Pas toujours commode à voir clair, hein? Parce que on avoue difficilement qu'on est un petit chat qui aime d'être à côté du feu brûlant. Il y a des frères qui sont pour nous des brasiers brûlants. Il y en a d'autres qui sont des icebergs. Oh, j'ai un petit chat. C'est la période du petit chat. Et ça dure longtemps. Alors, est-ce que c'est pour retrouver davantage Dieu ou retrouver davantage ce foyer brûlant? C'est pas si commode que ça. Donc le choix doit être limpide, doit être vrai. Je dois choisir tel ou tel moyen pour retrouver tel ou tel. Il faut que je sois lucide là-dessus. Il faut que je sois très lucide. Il ne faut pas que par en dessous je me rattrape. Et facilement on se rattrape. Mais l'aspect passionnel et l'aspect instinctif, l'aspect imaginatif, joue énormément là-dessus. Eh bien, la prudence viendra aider le choix d'être tout à fait lucide, d'être un choix humain, sans aucune opacité passionnelle. Sans du tout vouloir se gonfler. Moi, je choisis ce moyen-là parce que comme ça, on verra. Je suis quelqu'un de bien. J'ai choisi d'arriver 5 minutes avant, 6h30, pour qu'on voit que je suis un homme de raison. C'est pas du tout par amour pour Dieu. Oh non, non, pas du tout. Mais c'est... Oh, je le dis pas, hein. Mais c'est pour qu'on me voit. Il y avait une petite lutte là, vous voyez. Le choix. Le choix qui se fait dans le temps et l'espace. Je choisis tel moyen. Travailler avec tel frère. Est-ce que c'est pour vraiment chercher la vérité un peu plus? Ou c'est tout simplement pour être à côté de lui. Le choix prudentiel se fait dans cette lucidité. C'est très lucide dans les choix. Il faut avouer, de temps en temps, on a besoin, c'est évident, affectivement, mais on l'avoue. C'est vrai. J'ai besoin de rencontrer ce frère. Il me donne un peu d'oxygène. Parce qu'autrement, c'est tellement, tellement vicié. La vie commune. Hein. Alors j'ai besoin de temps en temps d'avoir un tout petit élan nouveau. C'est très légitime. Mais il faut que ce soit lucide. Et la prudence va rendre nos choix lucides. Je vous ai dit, hein, les choix se prennent ou en fonction du sujet ou en fonction de la finalité. Il faut être lucide que les choix qu'on a pris, c'est en fonction du sujet. C'est très subjectif. J'ai choisi ce choix parce que c'est comme ça, c'est ma subjectivité qui l'emporte. Ma subjectivité affective, sensible, passionnelle, je le sais. Et que voulez-vous ? Je suis fragile. C'est très bien, on avoue qu'on est fragile et qu'on a besoin de la sucette qui continue. Parce que c'est ça, la sucette, ça. C'est la sucette du gosse. On lui donne une sucette pour qu'il ne crie pas. C'est très mauvais du reste, mais ça fait rien, ça c'est ce procédé d'éducation. Alors, la sucette, ça continue. Il faut savoir que c'est une sucette. Parce que garder la sucette, hein, comme le mégot, c'est triste, hein, c'est triste. Là, ça prend des nuances particulières. L'homme prudent est lucide. Parce que quand on n'est pas prudent, c'est très curieux. Tout le monde est lucide, sauf celui qui a la sucette. C'est extraordinaire, ça. Mais tout le monde est lucide, tout le monde le voit. C'est un peu... Les deux inséparables. Oh, très bien, très bien, très bien. Les deux inséparables. Très, très bien. Ils sont inséparables. S'ils s'aiment d'un amour vrai, ils le savent. Qui peuvent se retrouver, qui peuvent s'aider en vue d'aimer plus le Christ et le prochain. Oui, ça c'est la prudence qui rend lucide, c'est extraordinaire. Comme la prudence fait que l'intelligence pratique vous rend lucide. Et s'il n'y a pas la prudence, on est tous dans son petit coco. Sans qu'il y ait l'œil qui dépasse, vous savez, ce que Platon dit, hein, qu'on est des êtres emmaillotés par l'imaginaire, par la passion, on est emmaillotés. Il dit de temps en temps, il y a un œil qui apparaît. Alors l'œil qui apparaît, c'est la prudence qui fait qu'on est conscient. On est des êtres passionnés, c'est évident qu'on est des êtres passionnés. On est des êtres imaginatifs, c'est évident. Mais l'imagination et la prudence sont dépassées par cet œil de la prudence, cet œil de l'intelligence pratique. Parce que l'intelligence spéculative ne rectifie pas ça. On peut avoir des idées extraordinaires. Je dis des idées, parce que votre jugement d'existence, quelquefois, il est mis entre parenthèses pour vos idées. Oh, j'ai des idées célestes. Oui, oui, oui. Et vous ne voyez pas que vous êtes entièrement mené par la passion au niveau pratique. Entièrement mené par l'imagination au niveau pratique. C'est très curieux. Entre l'intellect pratique et l'intellect spéculatif, on peut quelquefois mettre une séparation. Imaginaire. On vit dans des idées. Et pas du tout le jugement d'existence. Le jugement d'existence fait l'union entre l'intellect pratique et l'intellect spéculatif. Et la prudence vous donne ce jugement existentiel et vous fait comprendre que, de fait, il doit y avoir un lien entre la connaissance spéculative, philosophique, contemplative et la prudence. La sagesse pratique et la sagesse spéculative se tiennent, sont pas séparées, sont distinctes. Et c'est le jugement d'existence, le réalisme, qui permet de comprendre les deux. Alors, troisième moment de la prudence, de la naissance de la prudence, et c'est très beau de voir comment la prudence permet à notre intellect pratique, notre intelligence pratique, de rejoindre le réel, mais le réel en nous, et de comprendre ces zones imaginatives, ces nuages imaginatifs qui passent, liés à l'affectivité. Troisième moment, rectification de l'intention de vie. imaginatif. Alors deviens un dilettante. On n'a plus aucune détermination et d'orientation dans sa vie. Il n'y a plus un véritable amour spirituel. On doit aimer une personne. On aime un idéal. Combien de personnes aiment un idéal ? Aimer un idéal, c'est merveilleux. Parce que ça ne répond jamais. L'idéal, il n'existe que dans mon intelligence, que dans mon imaginaire, plus exactement. L'idéal, c'est pas un idéal qu'on aime, c'est une personne. Et c'est pas la même chose. La personne répond et l'idéal ne répond pas. L'idéal, vous le faites selon votre capacité imaginative. C'est très difficile d'arriver à cette purification du véritable amour et de l'idéal. L'idéal peut aider, il ne faut pas supprimer l'idéal dans notre vie. Il ne faut pas supprimer la cause exemplaire. Elle est utile, mais il faut la dépasser. L'idéal, c'est pour aimer noblement celui qu'on aime, d'une façon chevaleresque, d'une façon gratuite. Ça, ça aide beaucoup. Et la cause exemplaire aide à ce point de vue-là. Je ne veux pas aimer d'une façon banale. Je veux aimer avec un peu de dignité. Je veux aimer comme une personne qui sait ce que c'est que l'amour et la grandeur de l'amour. Je ne veux pas avilir l'amour. Alors là, on a besoin que l'idéal vienne ennoblir mon amour spirituel. Je veux aimer d'une façon chevaleresque. Je veux aimer d'une façon gratuite. Je veux aimer sans être un poids pour celui que j'aime. Je ne veux pas qu'il me porte, mais je veux le porter. C'est ça l'amour chevaleresque. Alors quand on veut se porter mutuellement l'un et l'autre, c'est merveilleux. On a des ailes pour avancer. Tandis qu'au contraire, lorsqu'on veut être porté par l'autre et que l'autre veut être porté par vous, alors on appelle un porteur. Oui, parce que justement, on n'a plus d'aile pour se porter. Il manque un peu d'idéal. Oui, c'est très important. L'idéal n'est pas du tout à supprimer. Il est à être relativisé par le véritable amour. Mais l'idéal risque quelquefois d'étouffer le véritable amour. Et quand on veut être trop chevaleresque, on ne regarde plus que la manière d'aimer, on ne regarde plus l'amour. Quand on veut un amour trop pur, vous savez bien, c'est ce que on dit habituellement, cette chose extraordinaire de cette fameuse querelle de l'amour pur, que Brémond, il faut lire de temps en temps, ce que Brémond dit sur l'amour pur dans l'histoire de la spiritualité. Je vous ai donné cet exemple qu'on retient parce qu'il est tellement extraordinaire. Cette personne qui veut aimer d'un amour tout à fait pur, tout à fait pur. Alors, monsieur le curé a demandé de pouvoir avoir des cloches, parce que les cloches sont fêlées, comme ici. Les cloches sont fêlées. Il faudra avoir une cloche quand même, qui soit une cloche, une vraie cloche, quoi, qui sonne avec un petit peu d'idéal. Et qui vous réveille un peu, et non pas qui vous éteint. La cloche est fatiguée, alors vous éteint. Alors, monsieur le curé demande ça, il faut payer. On fait une quête. Et les quêtes ne rapportent pas beaucoup, donc il faut quelqu'un qui soit vraiment mécène, alors, quelqu'un qui peut le faire, et qui dit, monsieur le curé, je vais vous apporter ça. Mais il ne faut surtout pas qu'on le sache que c'est moi, pour que mon amour soit, mon don soit pur. Mais monsieur le curé, je vous en supplie, inscrivez mon nom dans la cloche pour que chaque fois que le tympan tape sur la cloche, il tape sur mon nom. Voyez, alors pour Brémond, l'amour pur, ça se rattrape, voyez. Alors, ça c'est l'amour chevaleresque qui veut être pur pour être pur. Et à ce moment-là, l'amour disparaît. Il n'y a plus que le nom qui reste. Il faut que la prudence arrive à purifier et à mettre au service la causalité exemplaire, l'idéal, le mode d'aimer au service de l'amour. C'est peut-être la purification dernière de la prudence. La purification la plus profonde. Comprendre qu'il faut être attentif à la manière d'aimer. Mais que la manière d'aimer est au service de l'amour.